원, 투, 쥐! 파이어!
Voici de retour dans vos oreilles pour un high time sirupeux à souhait. Le mois de juin qui vient s'annonce bien rempli et débordant. Vous aurez des détails tout au long de l'émission. Et maintenant un petit peu de musique avec...
Alors à quatre pattes, cocotte, ouais. Sur des trucs trash, pas sur le sucré. musique, alors cherche comme un porc, gratte, gratte dans la terre. Gratte dans la terre et trouve les pommes de terre. Les jaloux sont obligés de se taire. C'est dans le chocolat que sont les clés du mystère.
Et maintenant continuons avec un petit peu de musique avec Et maintenant, arrêtons-nous dans Airtime avec un petit air mode musical. Avec Airtime, c'est bientôt le mois de juin, alors voici le programme avec pour patienter. Un petit peu de musique avec.
I'm not locked down, back in Bhutan. The sun is gone, and I have a light. The day is done, and I'm having fun. I think I'm dumb, maybe just happy.
Et maintenant, dans Airtime, un petit test pour savoir combien d'entre vous sont attentifs. Sortez un stylo, prenez une feuille de papier et aussi vos lunettes si vous êtes bigleux. Et notez cette adresse, http://62.210.247.11/radio/575. Attention. Je répète, http://62.210.247.11/radio/575. C'est donc plus tard quand Airtime sera terminé. quand vous n'aurez plus rien d'autre à faire que vous allez entrer cette adresse dans votre navigateur favori. Et là, pour votre plus grand bonheur et avec un peu de chance, vous allez écouter la programmation de Radio Encore Heureux. Mais c'est quoi Encore Heureux, me demanderiez-vous si nous nous connaissions? Et si par le plus grand des hasards, nous nous parlions? Mais je ne parle jamais aux inconnus et du coup c'est très improbable toute cette histoire. Enfin bref, Encore Heureux, qu'est-ce donc? Encore Heureux, 2015 du 9 au 19 juin 2015, depuis 2 ans, à la Fonderie. Le collectif Encore Heureux crée des associations inattendues entre patients et impatients. Membres de GEM, travailleurs d'IME et de SAT, éducateurs, moniteurs, précaires, formateurs, psychologues, psychiatres, intermittents, bricoleurs, intervenants dans la danse, au théâtre, au cinéma, etc., qui sont amenés à construire ensemble le chemin de fer de cette initiative. Ces rencontres, le collectif n'en est pas le seul artisan, des envies, désirs, promesses, réciprocité suivent désormais leur propre cours pour inventer des lieux où vivre. Au sein d'un hôpital de jour, d'un GEM, d'un lieu culturel, d'une clinique, d'un foyer d'accueil ou d'un quartier, prendre des nouvelles de ces différents chemins. Résister aux assignations qui nous rétrécissent la poitrine. C'est à cette attention particulière que répondent ces invitations, cette année, Encore Heureux. Se présente sous la forme de rencontres, de représentations, de concerts, d'expositions, de radiophonie et d'ateliers, laissant ouvert des circulations obliques ou fortuites. Partager une discussion, une lecture de poèmes, une projection. Regarder des taches solaires au télescope ou lancer un appel à la radio. Venir là alors que rien ne vous prédisposait à entrer, au mois de juin. La Fonderie ouvrira ses portes pour tenir la promesse d'un lieu où l'on peut se tenir debout et prendre le temps de déplacer les cadres habituels, créant ainsi, ce qui ne va pas de soi, une circonstance propice au partage du quotidien. Diffusé en simultané et en direct depuis la Fonderie, entre le 15 et le 19 juin de 15h30 à 17h. Sur les ondes en FM au Mans, sur Radio Alpa, à Reims, sur Radio Primitive et partout ailleurs dans l'univers et au-delà sur Radio King Encore Heureux par l'internet. Et oui, ça se passe comme ça à Le Mans.
C'est par là la cantine.
Mais c'est une manière de faire. Hein. Moi, j'appelle ça souvent une alternative.
On fait l'expérience et après, si ça marche pas, on fera
Encore Heureux, Radio Primitive, Radio Alpa.
Allons, ici la Fonderie. Quel jour sommes-nous? Ben, j'ai oublié. Quelle saison sommes-nous? J'ai oublié. Quelle heure est-il? Je m'en fiche.
One, two, three.
Espagnol qui est dans mes veines, de pousser jusqu'aux extrêmes, dans l'amour et dans la haine, j'ai jusqu'au bout de moi-même. Le sang français qui circule en moi me conseille malgré moi de sauver les apparences et me dit que la prudence est.
Alors, lequel est-il choisi? Celui qui va trop loin, celui qui le retient. J'ai joué avec le feu. J'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler. J'adore les voitures hyper rapides et tous les petits.
fait vivre plus vieux. Alors, que faire de ma vie? La vie va sans à l'heure, éviter les malheurs. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler avec le feu.
Unpaid murder.
Voilà, au moins ça s'est dit, et à part ça, bah en juin, le samedi 13 juin à 9h du matin. Un car partira de Reims pour emmener tous ceux qui ont des choses à dire ou à dénoncer sur les façons dont la psychiatrie prétend remettre tout le monde dans le cadre. C'est la Mad Pride, la deuxième Mad Pride à Paris. Un défilé de teigneux qui ne veulent pas s'en laisser compter par les promoteurs en santé mentale et autres représentants des usagers blablabla. Sans parler du lobbying intense des labos, de la corruption, du manque de moyens et de personnel qualifié, si vous souhaitez en savoir plus, envoyez vos questions à umapsi@mailou.org. Vous êtes toujours dans High Time. Je suis la translatrice et maintenant un petit peu de musique avec.
Hey poor! Hey poor! Hey poor! You don't have to be poor anymore! Jesus is here! Jesus is here!
Hallelujah! In the name of Jesus. Qui c'est qui se lève tôt le matin et qui empêche les autres de dormir?
Les gens qui passent,
mais qui se qui se gênent pas pour que les coches fassent des boum.
Les gens qui passent,
ils s'occuperaient de leurs
enfants.
Y aurait jamais de délinquants.
Les gens qui passent,
ils exploitent la
planète.
Et puis tant pis si ça pète.
Les gens qui passent. Oh,
à bas les gens
qui passent. Oh,
c'est que de la
racaille.
Oh,
à bas
les gens qui passent. Oh,
pour les nettoyer
ou garcher.
À cause de qui y'a que le dimanche qu'y a les bons trucs.
Oh, wow.
Télé.
Les gens qui passent.
Qui c'est qui se dit
Villemont
la retraite mais qui la touchera sûrement jamais.
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui
a marre
de payer des allocs aux immigrés.
Les gens
qui bossent.
Et surtout à cause de qui y a pas de
boulot
aujourd'hui.
Les gens qui bossent. Oh,
ah bah.
Les gens qui bossent. Oh,
ils sont
égoïstes.
Oh, ah bah les gens qui bossent.
Ils ont plus peur de dire tout haut.
Les chômeurs,
ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont
contents
de pas être à leur place.
Et puis
tous les matins, ils vivraient tous leur
bagnole.
Et du coup à cause de guerre en Irak. Oh, ils ont pris masse. Oh, ils ont vraiment
rien
d'autre à foutre. Oh, les gens qui bossent. Oh, franchement
y'a pas de quoi
à ramener. Oh,
ah bah.
Les gens qui bossent.
Oh oh.
Ils sont pas épanouis.
Ah.
Et allez on se lâche.
Oh oh.
Ils sont pires que les nazis.
Oh.
Ah bah les gens qui bossent. Oh. Hey. Ils sont pires que les nazis. C'est des
Américains.
Stop.
Stop.
Didier Super.
Bon, je m'arrête là, je te donne la parole et puis on discute ensuite.
Ben merci pour l'introduction, assez valorisante, en tout cas du point de vue du contenu du livre.
Et je vous conseille vivement de l'acheter, il en vend dans cette salle, hein, j'espère.
Bon, et puis pour dire que ça me fait plaisir quand même de me retrouver là, puisque j'aurais dû normalement intervenir en mai dernier.
Je ne pas rappeler, mais oui.
Voilà. Bon, j'ai pas pu pour telle ou telle raison, mais peu importe, en l'occurrence, ce qui est important, c'est que je sois là, que je puisse par conséquent discuter avec vous. Et je voudrais en effet revenir sur la présentation de Patrick, sur la notion de commun. En définitive, ce qui est un peu intrigant dans ce livre, c'est le fait qu'on ait choisi de donner comme titre à ce livre un mot qui est en fait souvent utilisé comme adjectif, parce que commun, à la limite, comme adjectif, est qualificatif, il y a plus commun au sens propre du terme. Mais là, c'est en fait un adjectif qui est substantivé, mais en même temps, on a fait en sorte que le substantif soit coupé de l'article définitif. On a fait en sorte que le titre apparaisse de façon très brutale, comme signifiant quelque chose d'un peu déroutant, précisément un peu à rebours d'un certain nombre d'attentes qui sont quand même assez partagées. Et je crois que ça vaut déjà en soi une explication, parce que beaucoup de gens en fait nous ont posé la question, qu'ils aient lu ou non le livre, qui est la question de savoir ce que signifie précisément le titre. Alors on en a parlé avec Christian dans les séances de présentation du livre, mais je crois que c'est utile de revenir dessus, et en particulier sur la notion même de commun. Donc ce que je ferai, c'est que je prendrai en considération le titre même que j'ai voulu donner à l'intervention que je fais ce soir, c'est-à-dire « Le commun et son collectif ». Et si je l'ai fait, c'est pour faire apparaître l'absence de symétrie entre les deux substantifs. Parce que vous avez le commun et le collectif, mais justement son collectif fait apparaître une relation de dépendance entre le collectif et le commun, et donc une certaine forme de primauté du commun par rapport au collectif, ce qui implique que ce n'est pas tout à fait la même chose que de réfléchir sur le collectif en lui-même. Donc c'est vraiment le collectif dans la relation qu'il entretient avec le commun, qui est un principe sur lequel je vais revenir, et donc ce n'est pas du tout une manière, par exemple, de parler du collectif et du commun comme dimension de l'existence humaine, parce que ça c'est un propos très général qu'on pourrait parfaitement tenir. Je ne sais pas, je prends un livre comme celui de Prokhoris sur l'histoire insaisissable de la psychanalyse, où il est question de l'en commun, mais à ce moment-là c'est la dimension collective, et c'est le problème de l'articulation entre le singulier et le collectif, puisque l'en commun désigne précisément la dimension collective, mais je ne parle pas du commun dans ce sens-là, donc je préviens tout de suite que ce n'est pas de ça que je veux parler, même si je peux parfaitement accepter qu'on prenne évidemment le terme de collectif dans ce sens-là. Donc ce que j'aurais voulu considérer avec vous, c'est plutôt cette relation asymétrique qui fait que le commun a une certaine forme de primauté et que le collectif apparaît comme étant tributaire ou dépendant justement du commun comme principe. Et j'ai été extrêmement heureusement surpris d'apprendre en lisant donc le texte sur le GDPSY et le collectif à venir, Olivier April, que lui-même, à propos de notre livre, disait justement que le collectif devait plutôt apparaître comme étant une fonction du commun. J'ai trouvé la formule extrêmement précise, exacte et correspondant très fidèlement à ce que nous voulons signifier avec Christian. Donc j'étais très heureusement surpris, parce que c'est assez rare quand même que quelqu'un se pose la question dans ces termes-là, à propos en tout cas du titre que nous avons donné à l'ouvrage, et se disant que finalement le collectif avait certainement une signification par rapport au commun que nous dégagions comme principe dans le livre, mais que c'était finalement la signification d'une fonction du commun, et sont en fait l'adjectif possessif que j'utilise pour introduire finalement mon propos. C'est une façon de signifier en effet que le collectif est une fonction du commun, et que le son, l'adjectif possessif, signifie que ce n'est certainement pas le collectif qui appartient, comment dirais-je, c'est pas le collectif qui a une relation de propriété ou d'appartenance au commun. À la limite, on pourrait presque dire et justifier dans une certaine limite que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est le collectif qui appartient au commun. Mais je crois que le mieux, c'est d'utiliser le terme de fonction, c'est beaucoup plus précis, et on va voir pourquoi. Alors la première chose que je commence par faire, c'est par clarifier un petit peu le sens que nous donnons à cette notion de collectif, de commun, pardon, de principe du commun. Nous en parlons comme d'un principe politique, nous en parlons d'emblée comme d'un principe politique. C'est même le début de l'ouvrage. L'ouvrage commence d'une façon un peu, alors c'est presque un coup de clairon, hein, ça peut sembler un peu étrange, mais c'était vraiment de façon délibérée, intentionnel, pour aller à rebours de certaines habitudes de pensée, c'est-à-dire pour dire aux gens que ce n'est pas du tout le sens habituel que l'on donne au mot de commun. Et en fait, si nous l'avons fait, c'est parce que nous avons été extrêmement attentifs avec Christian à un certain nombre d'expériences, qui sont des expériences politiques, dont je préviens tout de suite, je vais parler d'abord et avant tout de politique. Mon propos va être d'abord et avant tout politique. Il va croiser un certain nombre de questions qu'on peut se poser dans le cadre de la psychothérapie institutionnelle, il va croiser les questions qu'on peut se poser dans la psychanalyse, il va croiser les questions qu'on peut se poser en droit, il va croiser les questions qu'on peut se poser en philosophie, mais il va être essentiellement politique, parce que le commun, au sens où nous l'entendons avec Christian, est d'abord et avant tout un principe politique. Donc nous avons été très attentifs à un certain nombre d'expériences. Vous savez, c'est l'expérience d'occupation des places, dont nous avons été tous les témoins. Occupation des places, alors ça veut dire beaucoup de choses. Bon, ça a commencé, il faut quand même le dire, il faut rappeler ça, par les indignés sur la place centrale de Madrid. Ça a ensuite essaimé dans le monde. Il y a eu bien sûr ce qui s'est passé à New York et dans d'autres villes américaines. Il y a eu aussi, et ça a été très important pour nous, ce qui s'est passé à Istanbul. Donc ce qui s'est passé en 2013 avec la place Taksim, avec le parc Gezi, qui a été très important en ce sens que ça nous a fait vraiment sentir à quel point dans ces mouvements-là, il y avait un ancrage dans un lieu. Donc occupation, ça veut dire occupation d'une place, occupation de tel ou tel lieu à l'intérieur d'une ville, et occupation d'un lieu dont on estimait qu'il valait la peine d'être défendu comme espace de vie collectif. Donc il s'agissait pour nous d'être très très attentifs à cette dimension-là, qui était une dimension politique, et qui dans le cas par exemple d'Istanbul, faisait que les gens faisaient eux-mêmes la relation avec l'expérience politique de la Commune de Paris. Donc il faut savoir que par exemple, pendant quelque chose comme 15 jours, vous aviez une banderole sur la place Taksim, sur laquelle se trouvait inscrit « Commune de Taksim », avec une référence assez directe à la Commune de Paris, pleinement assumée. Donc, il n'y avait pas ni de pathos, contrairement à ce que certains commentateurs ont pu dire, ni de gêne, ni d'embarras, ni quoi que ce soit. C'était une revendication tout à fait ouverte. Et les gens, en effet, disaient ben « voilà, ça c'est la Commune de Taksim, il y a eu la Commune de Paris et la Commune de Taksim ». Alors il y avait peut-être un petit côté, une dimension de fierté, hein, certainement, dans cette manière de se réapproprier le souvenir de la Commune de Paris. Mais il y avait quelque chose de très important qui nous a alerté, peut-être davantage que dans d'autres expériences d'occupation d'un certain nombre de places ou de lieux, c'était la relation directe que les gens faisaient dans leur conscience entre l'occupation de certains lieux, la défense de certains espaces urbains comme espaces collectifs, qui ne devaient pas être appropriés ni par l'État, ni par le privé ou le marché, et puis d'autre part la revendication de la commune, c'est-à-dire la filiation, le fait de dire des espaces communs, comme ceux-ci, doivent être défendus précisément à travers des formes d'autogouvernement local, dont justement la Commune de Paris a donné l'exemple. Et ça pour nous, ça a été quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que nous avons répété ensuite dans le livre que nous n'avons pas inventé le principe du commun, mais que c'est un principe qui se dégageait de ces expérimentations politiques et sociales, et que nous devions par conséquent en prendre acte, en quelque sorte, et en tant qu'intellectuel, puisque c'est en effet comme ça qu'on peut, dans une certaine mesure, peut-être pas se définir, mais en tout cas se désigner, Christian et moi, on se devait d'analyser ce qui se passait et d'en dégager la pleine portée. Et c'est ce qu'on a fait, et donc on a été très attentif à cette question-là, et à ce moment-là, on s'est aperçu que dans cette manière de revendiquer le commun et la commune, il y avait quelque chose de très important qui allait complètement, vraiment, alors là, à l'encontre de toute une série d'idées reçues qu'on pouvait avoir sur le commun, en particulier du fait de l'expérience que tu as rappelée, celle du communisme d'État, qui fait que les gens, dans leur esprit, confondaient le commun avec ce que l'État imposait à ses membres, du fait de cette expérience-là. Alors, bien sûr, pour quelqu'un comme Marx, par exemple, communisme d'État, ça ne veut rien dire, parce que tout simplement, s'il y a communisme, il n'y a plus d'État. Donc, bon. Mais là, je prends simplement au sérieux l'expérience historique qui a été celle de ce qu'on a appelé le communisme d'État, parce que je pense que ce n'est pas la peine de faire la fine bouche comme ça, en, comment dirais-je, jouant aux puristes en disant « Ah ben non, si c'est communisme d'État, ça ne peut pas être le communisme parce que c'est l'État. Bon, » Mais non, il y a quelque chose, il y a une réalité qu'il faut bien penser, qui s'est appelée pendant des décennies communisme d'État. Et hélas, avec tout ce que ça impliquait. Et donc là, en effet, il y a de la part des gens qui ont été les artisans de ce mouvement, une prise de distance critique très très ferme à l'égard de ce passé-là. Et puis, en même temps, une prise de distance, et plus qu'une prise de distance, une façon de mettre le commun en avant qui revenait finalement à le faire apparaître comme étant une alternative à la fois au marché et à l'État. Comme si la question n'était plus la question de la propriété. Comme si la question n'était plus la question de la propriété, parce que la question de la propriété a dominé l'histoire du socialisme, du mouvement ouvrier, du mouvement syndical pendant des décennies. C'est-à-dire que la question était celle de l'alternative entre propriété d'État et puis propriété privée, et comme si justement avec le commun émergeait quelque chose qui méritait d'être dégagé de cette alternative artificielle. Comme si la question c'était celle plutôt de l'institution de l'inappropriable, ou de l'institution de quelque chose qui devait être déclaré hors propriété, plutôt que l'alternative entre deux formes de propriété. Et ça nous a semblé quelque chose de très important à comprendre. Et du coup, nous sommes revenus à l'étymologie de commun, parce que nous nous sommes aperçus que tout le monde parlait effectivement de communauté, de commun, de communisme, etc., mais sans nécessairement faire attention à ce que le mot lui-même portait comme signification. Or, si on interroge le terme lui-même, on s'aperçoit que vous avez une racine latine qui est munus, qui signifie, enfin, il y a entre autres deux significations importantes. La première signification, c'est la signification d'une obligation, donc cum munus, littéralement une co-obligation, donc une obligation partagée. Alors ça, c'est bien sûr quelque chose qu'on a totalement perdu de vue lorsqu'on parle de commun, parce que ça signifie presque commun au sens de c'est tellement répandu que ça en devient banal ou vulgaire, hein, c'est presque ça. Mais il y a ça, et puis il y a aussi l'idée d'une coactivité, parce que munus en latin, ça signifie à la fois l'obligation et en même temps la tâche ou l'activité. Et j'allais presque dire ça fait tilt dans l'esprit de Christian et dans le mien, parce qu'on s'est dit, mais c'est quand même pas du tout un hasard si des mouvements comme ceux-là, ceux dont j'ai parlé, Barcelone dernièrement avec effectivement une forme, peut-être pas d'aboutissement, mais enfin une forme politique très intéressante qui est en train de se mettre en place, c'est pas du tout un hasard que finalement, n'oublions pas en effet que le nom de la liste qui a triomphé à Barcelone, c'est Barcelone en commun. Donc c'est important à rappeler et à préciser. Donc il y a cette idée de commun qui apparaît et qui refait surface malgré le communisme. Et ça nous est apparu comme quelque chose de très prometteur. Donc, contrairement à certains qui disaient « oui, mais c'est banal, parce qu'on va se revendiquer du commun, qu'est-ce que ça signifie, etc. » Donc il y a cette articulation entre l'obligation et la tâche, l'obligation et l'activité. Comme si finalement, ce qui apparaissait, c'était l'idée qu'il n'y avait de co-obligation politique que celle qui procédait de la participation à une même activité. Et que par conséquent, si on voulait imposer d'en haut, de façon autoritaire à des gens, une obligation qui ne procédait pas d'un partage de l'activité, ça n'avait aucun fondement. Ce qui veut dire par conséquent que se trouve disqualifiée, par exemple, toute tentative de faire procéder l'obligation d'une appartenance. Donc l'idée que les gens sont obligés parce qu'ils appartiennent à, du fait de leur origine, est une idée qui évidemment ne résiste pas lorsqu'on fait attention à la signification du commun comme principe politique. Or pour nous, c'était très important. L'idée que précisément, ce n'est pas une appartenance de fait qui pouvait fonder l'obligation. C'est une très vieille question. Alors là, je croise une tradition de philosophie politique qui est très ancienne. L'idée finalement de savoir, l'idée qui consiste à définir le fondement de l'obligation. Qu'est-ce qui fonde l'obligation ? L'obligation au sens politique du terme, hein. Pas l'obligation morale, mais l'obligation au sens politique. Et l'idée du commun, c'est l'idée qu'il n'y a d'obligation légitime que celle qui procède de la participation à une même activité ou à une même tâche. Et que tout le reste, par conséquent, n'a pas de légitimité. Donc ça veut dire bien sûr que la démocratie représentative se trouve interrogée de façon assez radicale, parce que ça signifie qu'il est difficile, à la lumière de ce principe, de justifier le fait que quelques-uns, une toute petite minorité, parlent et agissent au nom de tous, en se disant que justement, ils sont les représentants des autres, sous prétexte que les autres ont voté pour eux une fois tous les 5 ans ou une fois tous les 4 ans. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, tous ces mouvements d'occupation des places sont des mouvements qui mettaient en question cette démocratie représentative. Le plus clair, me semble-t-il, des exemples, c'est le premier, c'est-à-dire le mouvement des indignés, le 15 mars, puisqu'il était question à ce moment-là d'une démocratie réelle. La démocratie réelle, chez les artisans de ce mouvement du 15 mars, était opposée à la démocratie représentative, de façon très claire, hein, de façon extrêmement claire. Et donc ça posait une question politique de fond, hein, qui était la question de savoir si le mécanisme de la représentation était un mécanisme légitime. C'est-à-dire si finalement, pour reprendre une distinction faite par Castoriadis, ce qui ne devait pas être plutôt substitué au mécanisme de la représentation, c'est le mécanisme de la délégation. La différence entre les délégués et les représentants, c'est que les représentants répondent éventuellement de leurs actes une fois tous les 5 ans, alors que les délégués sont responsables devant ceux qui les ont commissionnés à accomplir une tâche définie à un moment donné, sans pouvoir se prévaloir comme ça de la durée d'un mandat, en disant je fais ça pendant 5 ans, puis après j'essaierai de me faire réélire, pour éventuellement prolonger les 5 années supplémentaires. Et donc il y avait quelque chose de très important, que nous avons tenu absolument à problématiser, à éclairer, à interroger, à examiner, et nous nous sommes aperçus que finalement, quand on donnait à ce principe-là une certaine primauté, les choses devenaient beaucoup plus claires. C'est-à-dire qu'on pouvait y compris interroger, alors je le dis parce qu'en France on est moins accoutumé que dans d'autres pays à cela, on pouvait interroger le pluriel. On pouvait s'interroger finalement, si vous voulez, sur la relation qui existe entre le singulier et le pluriel. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, on parle depuis très longtemps des communs au pluriel. On ne parle pas du commun. Donc, d'ailleurs, je pense que, je ne sais pas comment ils vont faire, mais la traduction en anglais de l'ouvrage va être rendue difficile, ne serait-ce que par le titre. Parce que ce n'est pas évident de donner ce titre-là, dans la mesure où on est plutôt habitué à parler des commons en anglais, c'est-à-dire des communs, justement, ce qui correspondrait à peu près à ce qui a existé dans l'histoire de notre pays, sous la forme également d'un pluriel, vous savez, c'est ce qu'on appelait les communaux.
please welcome Rocker T at the Cannabis Cup Band.
Nous venons d'écouter Pierre Dardot qui parlait de son livre commun, c'était la première partie. Les autres suivront peut-être pendant l'été qui s'annonce. Et maintenant voici la liste des morceaux diffusés durant cette dernière heure qui fait déjà partie du passé. Alors dans l'ordre, Stupeflip, Edith Nylon, l'Institut Mexicain du Son, Nirvana, Les Shérifs, Angélique Upstar, Front de Quat de Didier Super, et pour finir Pink Floyd et Pierre Dardot. C'était High Time, nous sommes toujours dimanche. It's every type of man them we smoke sensei. The young, the middle and the elderly. The rich man and the man we living in a poverty. Some them are belly full and some them are hungry. So when we get together in our community, we take a one draw for all of our family. And pass it round the cipher 1, 2, 3 degrees. You know you got to bless that you want it done properly. The healing of the nation certainly. You light it and you pass it and you feel irate. Some them are follow me, some them are disagree. Nobody could have ever take away my sensei. Since I fear Babylon, tell them say I'm a two ganja man. No, we no fear Babylon. Tell them say we a two ganja man. Come on, oh, says I fear Babylon. Tell them say we a two ganja man. No, we no fear Babylon. Tell them say, yeah. Take it down low, take it down low. What's up, y'all? We having a good time tonight. Everybody, if you love love, show your love and make some noise, y'all. Yeah. Yes, I. Améliorez votre confort d'écoute. Aidez-nous à renouveler notre matériel radio primitif. C'est surtout et avant tout des contenus, des émissions, des interviews, des reportages, des créations sonores, des programmes musicaux. Ces contenus, nous prenons plaisir à les réaliser. Nous espérons que vous prenez plaisir à les écouter 24 heures sur 24, 365 jours par an. On finirait presque par en oublier le volet technique de cette radiodiffusion quotidienne. Une réalité qui nous rattrape lorsque notre technicien nous rappelle que nos micros viennent de fêter leurs 25 ans d'existence, que l'émetteur a connu la présidence de Jacques Chirac et que la revente de notre parc informatique au prix de l'Argus nous permettrait à peine de recueillir de quoi acheter un café en terrasse dans un bar du centre-ville. Bref, les pannes se multiplient et notre qualité de diffusion s'altère au fil des jours. On a bien raclé nos fonds de tiroir, gardé la monnaie du pain, trouvé 5 euros sur le trottoir, mais au final le compte n'y est pas pour espérer renouveler une partie de notre parc de matériel. Voilà pourquoi nous faisons appel à votre générosité à travers cet appel aux dons. Vous aimez nos programmes, vous souhaitez continuer à nous écouter dans de bonnes conditions. Améliorez votre confort d'écoute grâce à votre participation financière. Plus d'infos. http://fr.ulule.com/radio-primitive/.